Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Il y a une histoire fabuleuse que vont nous raconter nos prochaines invités. C'est leur fantastique épopée, un an en van, minivan, une van de livraison. Imaginez ça, là. Et ils sont partis un an au Canada, jusqu'à Vancouver, Montréal, Vancouver, et ensuite jusqu'au Costa Rica. C'est assez fascinant parce qu'ils en ont fait un livre qui s'intitule « Un couple dans le van, 365 jours sur la route ». Quelle expérience! Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter et à se dire et à vous dire de temps en temps « Off, je lâcherai tout, je vendrai tout et je partirai bien sur un road trip ». Évidemment, des fois, tu le lances dans l'univers puis ça t'arrive pas parce que tu passes à d'autres choses, mais des fois, tu le fais. Et c'est ce qu'on fait Sonia Sauvette et Paul-Marcel Adam que je reçois à l'instant. Merci beaucoup d'être là tous les deux.
Oui, merci.
J'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre histoire dans ce petit livre. Vous racontez vraiment votre expérience autour de l'Amérique, finalement. À la base... C'était un désir de quitter la routine. C'était un désir de faire autre chose, malgré le fait que vous ayez, à l'époque, tous les deux, eu des emplois extrêmement, d'abord payants, intéressants, inspirants. Sonia, vous étiez chez Rio Tinto.
C'est ça.
Paul-Marcel, vous étiez chez SNC-Lavalin. Bon, bref, vous aviez de bonnes jobs. Hein?
Oui, on avait de très belles jobs. Et puis, on avait des bons environnements de travail. On avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Tout se passait très bien. Sauf qu'il nous manquait quelque chose.
C'est ça. C'était quoi? Qu'est-ce qui vous manquait?
Ben, on ne savait pas trop ce qui nous manquait, mais on avait l'impression qu'on allait un peu droit dans le mur. On refaisait toujours les mêmes choses. On avait juste les week-ends et puis nos quelques semaines de vacances par année pour relaxer, pour faire autre chose. Et finalement, on ne s'y retrouvait pas. On en a beaucoup profité pendant longtemps. Et puis, mais là, il nous manquait l'essentiel. Et on avait l'impression que continuer dans la vie qu'on avait, c'était un peu nous enfoncer dans une voie qui ne nous correspondait plus, qui nous avait correspondu pendant longtemps, mais qui n'était plus ce qu'on était devenu à l'âge qu'on avait. Moi, début quarantaine, et puis Paul-Marcel, début cinquantaine.
Ouais. Et oui. Vous, Paul-Marcel,
Effectivement, c'est le fait de recommencer constamment la même journée, finalement. Retourner au travail un peu les yeux fermés parce que tu connais tellement bien le chemin. Les journées se ressemblent beaucoup et trop.
C'est le jour de la marmotte, là?
Pas mal le jour de la marmotte, effectivement. Ouais. Et à un moment donné, tu as l'impression que... Est-ce qu'il faut vraiment attendre l'âge de la retraite pour profiter de la vie comme on le souhaiterait le faire? Et là, on s'est rendu compte un jour que non, on n'a pas à attendre ça. Il faut prendre des risques dans la vie. Il faut essayer des nouvelles choses, se mettre en danger. Et justement, pour aller chercher autre chose, et c'est ce qu'on a fait, on a décidé de quitter nos emplois, pas prendre de sabbatique non plus, pour éviter d'avoir à retomber dans le même sillon au retour. Parce qu'on sait que c'est souvent le piège. Après avoir fait une année sur la route, on revient et l'emploi nous attend. Puis on ne voulait pas cette petite boule d'angoisse-là que je savais qu'il allait revenir. Et donc, on a coupé les liens carrément et on est parti en disant « on verra, on verra ».
D'ailleurs, vous racontez, Paul-Marcel, dans votre livre, vous racontez que la journée où vous êtes allé annoncer à votre patron que vous démissionniez chez SNC, il ne revenait pas d'abord parce que ça faisait quand même quelques années que vous étiez là, c'était une bonne job. Mais peu de temps après, je pense que la semaine d'après, c'est ça, ou quelques jours après, le lendemain, on a annoncé des compressions de poste.
Oui, effectivement. Quand mon départ a été annoncé, cette même journée-là, on a reçu un message et tout le monde se présentait le matin, le lendemain matin.
C'est ça, le lendemain.
Pour apprendre que finalement, le département était vendu à une autre entreprise.
À tel point qu'il y en a même des collègues qui vous ont dit « Coudon, t'avais-tu de l'information privilégiée? Le savais-tu? »
Non, j'avais évidemment pas d'information privilégiée. J'aurais été dans le même bain que tout le monde.
Ouais.
Et là, je me suis senti en fait bien, même si j'étais malheureux pour les collègues. Je me suis dit, en fait, j'ai choisi. Moi, j'ai choisi mon chemin et je ne l'ai pas subi.
Voilà.
Et ça, franchement, c'était la première petite leçon. Le fait de tenter des choses, on dirait que des fois, les
arrêter de subir. Arrêter de subir aussi. C'est donc parce que votre livre commence, vous ouvrez sur une citation de Jacques Attali qui dit « La routine de l'aliénation ne vaut pas l'incertitude de la liberté.
Ouais. »
C'est tout ça, la prise de risque, dans le fond. La liberté, oui. Il y a beaucoup d'incertitudes autour, mais la routine nous rend fous.
Oui.
Oui. La routine nous rend fous, puis la routine nous enferme et nous empêche aussi de nous dépasser, parce que finalement, on refait toujours les mêmes choses. Mmh. On ne prend pas de risques. Et puis, c'est cette prise de risque qui nous amène à nous connaître mieux, ouais. à voir aussi qu'on a plus de ressources, qu'on a plus de compétences et de capacités qu'on peut l'imaginer. Et finalement, la routine nous empêche de nous réaliser pleinement. Et la prise de risque qu'on a faite avec ce voyage nous a vraiment permis de nous découvrir en tant qu'individu, en tant que couple, et puis aussi de découvrir une facette du monde qu'on ne pouvait pas soupçonner, découvrir une humanité dont on n'avait même pas l'idée.
Et c'est là où, quand on sort de chez soi, on vit toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, vous racontez, vous avez eu des moments où c'était inquiétant. Vous commencez avec justement une scène où là, vous êtes obligé de surveiller quelqu'un qui est en train de vous voler. Bref, il peut se passer plein de choses. Dès qu'on sort de chez soi, on s'ouvre à toutes sortes de risques, c'est sûr. En même temps, puis vous dites, on a appris à se découvrir aussi, il y a la vie dans une minivan pendant un an. Là, c'est plus petit, c'est comme une mini-maison, là, mais c'est encore plus petit. Là.
Oui, et ça a été la première expérimentation ou le premier défi auquel on a fait face. On s'y attendait pas, curieusement. On partait naïvement sur la route, puis rapidement, les journées se succèdent et on se rend compte qu'en fait, on n'a jamais véritablement vécu des 24 heures sur 24 ensemble, puisqu'on travaille la plupart de la journée. Et le soir...
Vous habitiez aussi une grande maison, vous aviez un grand appartement.
Un grand appartement. Le soir, on a nos activités avec des copains, des copines. Donc, ça se peut qu'on ne se voit pas nécessairement certains soirs. Et là, tout d'un coup, 24 heures sur 24, constamment, et dans un environnement qui nous challenge aussi. Et là, oui, les premières frictions sont arrivées et ça a été pour nous, bon, mais pourquoi, comment ça se fait qu'on se retrouve dans des situations où on est à cran? Mais finalement, ça nous a appris à désamorcer plus rapidement, à communiquer, ce qu'on pensait pouvoir bien faire, mais là, on a réalisé qu'on communiquait peut-être pas tant que ça ou aussi bien que ça. Et là, il fallait trouver des façons de régler les choses rapidement. Parce que c'est pas vrai qu'on traverse des beaux paysages, des belles montagnes, les deux mains sur le volant, la bouche fermée, parce que là, tu bougonnes. Et ce que tu vois, c'est merveilleux. Non, il faut régler les affaires.
Mais vous êtes dès le début, Sonia, d'ailleurs, vous, à un moment donné, vous êtes devant les Rocheuses, c'est magnifique, le lac Louise, tout est beau, l'eau cristalline et tout, puis vous n'arrêtez pas de vous gosser, de taper ses nerfs.
Oui, pour un détail.
Mais pourquoi, justement?
Pour des détails, par exemple, une casserole qui n'est pas mise au bon endroit. Ou alors la manière dont Paul va couper les oignons, puis moi, je les aurais coupés différemment.
Êtes-vous un peu germaine? Puis c'était encore plus évident dans le minivan.
Peut-être que ça s'est encore plus révélé, effectivement. Mais en fait, je pense qu'aussi au début du voyage, toutes nos petits travers vont être exacerbés par la prise de risque et par le changement de vie qu'on fait. Et rapidement, en fait, on apprend que l'ego, en fait, n'a pas sa place dans tout ça, dans le couple et dans le voyage, parce qu'il faut savoir respecter l'autre, il faut savoir l'écouter surtout, et puis savoir le décoder quand il n'est pas bien, quand il est insécure, quand il a peur. Et puis, il faut savoir aussi exprimer ses propres angoisses, ses propres peurs, ses propres sentiments. Et puis aussi, quand on est heureux, il faut savoir le dire.
Ouais.
Et c'est ça aussi qu'on a beaucoup appris avec ce voyage, à se respecter beaucoup et puis à se dire qu'entre nous, il n'y a pas d'ego.
Et à vous taper sur les nerfs aussi?
Non, pas tant que ça.
Mais en fait, c'est plutôt...
Ah, il répond pas!
Non.
C'est surtout dans le début du voyage. En fait, quand on a débuté le voyage, on était sur le mode qu'on avait toujours vécu.
Touriste un peu, finalement.
Oui, touriste,
on part, on fait, c'est un projet, on le fait.
Et productif, voir tout ce qu'on pouvait voir, etc. Donc, tout est à fond, tout est rapide. Et ça va justement susciter plus de friction. Et quand on est arrivé au Mexique, là, on s'est posé pour la première fois. On était sur la plage et pendant 4 jours, on est resté au même endroit. Et quand on a le temps de prendre le temps, et là, les pressions diminuent, la pression diminue.
Mais le Mexique, vous aviez fait, si je comprends bien, vous aviez fait quand même tout le Canada.
Oui.
Vous aviez
fait 2 mois. Vous avez descendu toute la côte ouest.
Oui.
Ça a été long à se taper ses nerfs.
C'est des longues routes. Non, mais il ne faut pas non plus penser qu'on était tout le temps à se picosser.
Ouais.
Mais c'est surtout des pays qu'on connaît trop bien, sans nécessairement les avoir vus, mais c'est notre mode de vie. Et tout est rapide. Il y a tellement de choses à voir. Mais là, on s'est rendu compte que non, il ne faut pas essayer de tout voir. Il faut juste profiter du temps qu'on a. Et ce temps-là, le maximiser, mais même à rien faire.
Ouais.
On peut ne rien faire. Et franchement, ça a été la plus belle révélation à partir du Mexique surtout. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on a le droit de ne pas être productif dans une journée et juste de profiter du bon temps qui nous est accordé.
Oui, parce que là, vous êtes mise en danger sur plein de points de vue parce que d'abord, vous partez, vous quittez une routine professionnelle importante qui vous imposait des horaires, des voyages. Vous, Sonia, je pense que vous étiez souvent dans les avions, sur des gros dossiers, tout le monde. Là, ensuite, vous vous imposez aussi un autre environnement de vie puis vous partez d'un... Combien c'était de pieds carrés dans votre maison, dans votre appartement, mais visiblement, un minivan, c'est pas mal plus petit.
Oui.
Là, t'es en autarcie dans un. Tu sais, puis t'es l'un sur l'autre. Même quand on s'aime beaucoup dans un couple, vivre des fois dans un appartement normal, c'est difficile.
Mais
là, sur la route, c'est quand même quelque chose de.
Mais sur la route, on n'est pas seul.
Ouais.
Et c'est ce qu'on a découvert. Parce qu'au départ, on pensait qu'on allait visiter des beaux paysages, mais finalement, on a rencontré beaucoup de monde. Et c'est ça vraiment la richesse du voyage. Mmh. C'est tous ces gens qu'on va rencontrer, aussi bien d'autres voyageurs que des gens qui vivent dans les endroits qu'on traverse. Et rapidement, on a besoin d'aller en contact avec ces gens-là. Mmh. On a besoin de savoir qui ils sont. Puis les gens sont aussi très curieux. Ils veulent savoir qui on est, pourquoi on est là, comment on est arrivé là et comment on vit. Qu'est-ce qu'on mange?
Vous avez rencontré d'autres gens comme vous qui ont décroché,
beaucoup
qui ont choisi cette autre vie-là.
Ouais. Oui, et ça aussi, ça a été assez fascinant. Et c'est des gens avec qui on a gardé le contact pendant le voyage et même après. Et c'était à chaque fois très intéressant de voir que c'était pour les mêmes raisons, la même façon d'envisager la vie. Et c'était de tout âge, autant des gens dans la vingtaine que des gens qui allaient avoir 70 ans. Donc à toute
quand tu n'as plus rien à perdre ou que tu as tout à gagner.
Oui, mais même...
Entre les deux, c'est là où c'est difficile. Mais c'est quand tu as des enfants en bas âge. Mais il y en a qui le font quand
mais
même.
On en a vu des familles. Ouais. On a vu des gens à 40, 50 ans, donc dans nos âges. Et c'était toujours les mêmes raisons, pour les mêmes désir de se réaliser, de découvrir le monde, mais surtout de sortir d'une vie qui est trop effervescente, trop rapide, qui ne nous donne pas le temps de bien profiter des choses.
Qui ne nous nourrit pas, finalement. C'est ça. Est-ce que vous diriez que c'est ça? C'est
ça,
finalement, ça...
En fait, qui
nous empêche peut-être de nous réaliser et puis qui ne nous laisse pas le temps de vivre. Parce que c'est vraiment ça qu'on apprend sur la route, à prendre le temps de vivre.
Ouais. Oui, et ce qu'on se rend compte, c'est que dans nos vies, on répète souvent les mêmes expériences parce qu'on connaît bien nos forces et nos faiblesses et on est toujours sur la répétition des choses qui nous rassurent.
Je cherche la liste que vous faites à un moment donné dans votre livre. C'est au début un peu là, où vous dites, vous alignez là, tout ce qu'on est obligé de faire, là, payer les comptes, payer le loyer. Puis
ouais.
Je pense que c'est tous ces fils. C'est dans le chapitre sur les fils, couper les fils.
Oui.
Et en lisant ça comme ça, je me dis, oh mon Dieu, ils ont tellement raison qu'on est attaché à tellement de fils.
Oui. Et puis, on se fait
par
croire...
Par coup un, il y en a deux autres qui ressortent.
Et on nous fait croire qu'on a beaucoup de besoins, finalement. Et puis, on pense que ces besoins sont fondamentaux. Et puis, quand on décide de tout couper, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est fondamental.
C'est vrai.
On n'a pas besoin de téléphone, on n'a pas besoin de se doucher non plus tous les jours, forcément. Et on apprend ça sur la route. On apprend à vivre beaucoup plus simplement. On apprend à revenir un peu à l'essentiel qui est beaucoup la relation humaine.
Ouais.
Et puis, c'est quelque chose aussi qu'on essaie de garder dans notre quotidien, même si c'est plus difficile, parce qu'au retour, on se laisse parfois happer par la vitesse, par ce qui nous entoure. Mais c'est quelque chose qu'on garde vraiment en tête.
On va s'arrêter ici. On va parler du retour qui n'a pas été facile, justement. Vous allez en témoigner. Et je vais donner l'occasion à nos auditeurs, auditrices de peut-être vous poser des questions s'ils en ont sur votre séjour d'un an dans une minivan comme ça, partir à l'aventure en Amérique à deux, en couple, pour se découvrir, décrocher, couper les fils. Et en même temps, j'aimerais ça, ceux qui nous écoutent, qui ont parfois cette espèce de petit désir, hein, mes invités dans leur livre disent « Le moteur, c'est le désir ». L'avez-vous, ce désir-là, de vous échapper, de partir comme ça à l'aventure? Si tel est le cas, dites-le-moi au 514-790-9850.
C'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets. de train, toutes les sirènes de bateau.
Hey, bientôt le matin, mais ça s'imposait. On la connaît par cœur. Je suis en compagnie de Sonia Sauvette et Paul-Marcel Adam, qui sont partis tous les deux un an, 365 jours. On les compte parce qu'à un moment donné, ça peut être long. Mais en fait, ils sont partis un an dans une minivan, un van en Amérique. Ils ont fait le Canada jusqu'à Vancouver. Ensuite, ils sont descendus sur la côte ouest pour se rendre jusqu'au Costa Rica, qui était à la base un peu votre pays de départ.
Oui, c'est ça, parce qu'on avait fait un voyage quelques années auparavant et le Costa Rica avait vraiment été notre coup de cœur.
C'est ça.
Et c'est ce qui nous a donné l'envie de voyager.
On a Daniel avec nous. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour, Madame Maréchal. Ça va bien?
Ça va très bien. On vous écoute. Qu'est-ce que ça génère comme réflexion chez vous ce matin, le témoignage de mes deux invités?
Ben moi, qu'est-ce que ça vient me chercher? Parce que les 7 dernières années, avant de prendre ma retraite, mon conjoint m'a fait vivre mon rêve au lieu de m'en aller au Mexique comme monsieur et madame, mais moi, c'était dans le Grand Nord.
Mm-hmm.
Donc, je quittais 4 fois par année et je visitais les villages en étant infirmière et je revenais à la maison pour avoir 4 mois par la suite par année de congé d'arrêt. Puis, c'est vraiment ressourçant, c'est connaître d'autres cultures, revenir à la maison avec des bagages et en discuter avec mon conjoint. Et de prendre le temps aussi, le temps d'arrêt. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de continuer jusqu'à la fin. Et je suis à la retraite depuis mai 2018 et je continue encore occasionnellement d'aller au Nord et de vivre du temps d'arrêt comme ça. Oui.
C'est intéressant, effectivement. Merci beaucoup, Daniel. Christian, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Mon commentaire par rapport à votre invité, c'est par rapport au moment d'arrêt, le temps d'arrêt qui fait que bon, la plupart des gens courent, on est parce qu'on est en Occident, il y a des factures à payer, des choses comme ça. Mais pourquoi ce n'est pas quelque chose qui est enseigné simplement, disons, dans les écoles? Parce que moi, en tant qu'Africain, on ne nous a pas enseigné en Afrique qu'il fallait s'arrêter à un moment donné. Tous les Africains qui viennent en Occident, on veut travailler, on veut performer, on veut atteindre bien sûr certains objectifs aussi, mais on ne... Pour des gens que j'ai parlé, avec qui j'ai parlé aussi, on ne cherche pas nécessairement à fuir un quotidien gris ou trop sous pression. Et j'entends ça souvent de la bouche des gens qui vivent plus en Occident, qui sont plus d'origine occidentale, quoi. J'essaie juste de comprendre. Et puis, lorsqu'elle a fait le commentaire sur « on peut se détacher des factures et puis ne pas nécessairement prendre des douches ». Bon, une douche, je pense que c'est quand même obligatoire. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui peut coûter de l'argent. Mais pour se détacher comme tel... C'est comme s'il y a une culture qui s'installe de « je travaille 40 heures semaine pendant l'année et à un moment donné, je fouille. Je fouille quoi pour aller où ?» Là, c'est mon côté africain qui pose la question. Oui,
effectivement. Mais c'est un peu ça, peut-être, mes invités là-dessus, mais j'ai retrouvé le bout où vous dites justement, au début du livre, vous dites, et d'ailleurs, j'en profite pour renommer le livre, les gens me demandent le titre, c'est « Un couple dans le van », un petit livre jaune aux éditions Château d'encre, un très joli livre en plus, en page couverture, j'aime beaucoup les pages couverture de livres. Il y a des livres comme ça qui attirent, le vôtre attire, et en plus, l'histoire est fascinante, 365 jours sur la route, et vous dites à un moment donné, bien sûr, il faut payer l'hypothèque. Vous dites le lundi matin à voir les gens dans le métro, c'est certain que je ne suis pas le seul à avoir ces réflexions. C'est Paul-Marcel Adam qui parle ici. Bien sûr, il faut payer l'hypothèque, les factures, manger, s'habiller, remplacer son téléphone, aller boire un verre, gravir les échelons professionnels et sociaux, partir en vacances. Chaque motif est juste. Il faut accepter de payer le prix du fonctionnement de notre société. Et vous dites maintenant, le sentiment d'être bloqué dans la matrice et d'abdiquer ma liberté augmente mon stress.
Oui, effectivement. C'est que... On est dans un cycle qui semble être sans fin et on nous fait miroiter finalement la retraite comme étant le moment où on va pouvoir vivre notre vie et vraiment se réaliser et faire nos rêves. Mais en fait, c'est que il y a moyen de le faire, je crois, de le faire d'avance. Nous, on s'est donné ce défi-là, justement de sortir de ce cycle pour arriver à se réaliser. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de raisons de continuer et effectivement, il y a des raisons très, très, très concrètes là, de faire des paiements. Mais nous, ce que ça nous a appris aussi, c'est qu'on a besoin de moins d'argent qu'on croyait avoir besoin. On a diminué énormément nos dépenses. Donc, forcément, on a moins le stress d'aller faire des revenus du même ordre qu'auparavant. Ça nous a permis de voyager et aujourd'hui de vivre différemment. Et ça, ça a été un enseignement. Et je crois que ça contribue énormément à soulager le stress qu'on pouvait avoir avant.
Et vous dites aussi, Sonia m'a souvent répété qu'à 40 ans, elle voulait changer de vie. Ça vient d'où, ça, Sonia?
Mais moi, je suis une immigrante ici. Donc, quand je suis arrivée, il fallait que je me débrouille, que je trouve un travail, que je m'installe. Je connaissais presque personne. Et donc... tout allait vite. Il fallait que je me place. Et je savais que ça allait très vite et peut-être trop vite pour moi. Et je savais qu'à 40 ans, ce serait un petit peu comme la limite. Et que je voulais essayer autre chose dans ma vie. Je ne voulais pas avoir qu'une seule vie de travail et de performance. Mais j'avais envie d'avoir plusieurs expériences dans ma vie. Et on nous fait souvent croire qu'il y a seulement une seule manière de vivre.
Voilà.
Mais finalement, il y a plusieurs manières de vivre et d'être heureux. Il n'y en a pas qu'une seule.
Exact. Hernan, vous avez un projet, vous? Merci de nous appeler.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute. C'est quoi votre projet? Vous voulez partir, vous aussi, je pense?
Ben moi, dans le fond, ça fait 17 ans que je suis au Québec.
Ouais.
J'aime vraiment beaucoup. J'ai dû quitter la Colombie à cause de la violence. Ces derniers temps, ça a beaucoup changé, ça a évolué. Et puis éventuellement, pourquoi pas, j'aimerais ça, mais m'acheter une petite grange en Colombie, puis m'installer là avec mes enfants, puis être autosuffisant. Tu sais. Parce que moi, ici au Québec, je travaille comme plombier. Je suis propriétaire d'un restaurant aussi à Saint-Hyacinthe. Je fais du bénévolat avec les immigrants et tout. Fait que tu sais, ma vie est quand même très, très chargée. Fait qu'à un moment donné, on a besoin un petit peu d'espace. On a besoin de du temps pour se retrouver, puis relaxer un peu, là. Puis là, je viens de commencer justement un projet en ligne là, avec des vidéos pour apprendre l'espagnol aux francophones.
Oh.
Puis l'inverse aussi, apprendre aux hispanophones le français. Puis si à un moment donné, la communauté grandit, puis que si je pourrais avoir quelqu'un soit avec ça, puis d'après moi, mon projet pourrait se réaliser éventuellement.
Ben oui, certainement. Restez en ligne, ben on va prendre vos coordonnées.
Ah, ben merci.
Merci, merci à vous. C'est intéressant. Plein de gens, là. Ont toutes sortes de projets. Vont-ils les faire? Ça, c'est une autre chose. Le retour. Je veux qu'on parle rapidement du retour et nous reste, on va conclure là-dessus. Comment ça a commencé depuis que vous êtes revenue, Sonia?
Bien, c'est sûr que le retour a demandé beaucoup d'adaptation. Ça m'a pris quand même un certain temps avant de savoir ce que je voulais faire. Et finalement, j'ai passé le pas. J'ai fait ce que j'avais voulu toujours faire. Finalement, je suis retournée à l'université.
Ouais.
Et maintenant, j'étudie. Je fais un certificat en coopération internationale. Et c'est quelque chose à quoi j'avais déjà pensé avant, mais j'avais trop peur de tout arrêter, de retourner à l'université. Et le voyage m'a appris qu'il ne faut pas avoir peur de faire des choix.
Ouais.
Et donc, voilà, maintenant, je suis retournée sur les bancs de l'école.
Ben, bonne chance.
Merci.
Paul-Marcel Adam, il y a des gens qui posent des questions sur les enfants, les petits-enfants. Dans votre cas, je pense, Sonia, vous n'avez pas d'enfants.
Oui.
Paul-Marcel, vous avez un grand-fils adulte de plus de 27 ans.
Oui, exactement.
Donc, ça n'a pas été trop déchirant.
C'était pas un enjeu.
Ouais.
L'enjeu était plutôt du côté de mes parents, qui étaient vieillissants.
Ouais.
Donc, au moment du départ, c'est sûr qu'on a toujours une réflexion là-dessus. C'était une santé. Bon, évidemment, quand ils ont passé 80, tu te demandes toujours. Il peut arriver des choses. Mais donc, au retour, j'ai eu le temps de m'occuper beaucoup de mes parents. Et finalement, ça m'a enseigné aussi de prendre le temps avec les gens qu'on aime.
Ouais.
Et j'ai passé beaucoup de temps avec mes parents qui, aujourd'hui, depuis 2 ans, là, sont décédés malheureusement dans cette période de temps-là que j'étais ici. Mais j'ai eu le temps de profiter des bons moments avec eux. Alors ça, c'était vraiment très intéressant.
Et vous faites quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, je fais des contrats en web. Et donc, de la maison, je suis consultant web. Alors, ça me permet d'être flexible.
Et c'est magnifique qu'on peut faire ça de n'importe où.
Et de n'importe où. Aussi.
Je sens que vous vous êtes préparé d'autres voyages tous les deux. Là.
Effectivement. C'est dans les,
toujours
c'est
dans en vanne le prochain?
Oui.
Ou... toujours
oui.
en vanne.
Et vous l'avez toujours, la vanne?
Oui, on a
le coup?
Oui.
Elle vous a pas lâché?
Non. Et c'est ça. On a un autre projet pour dans 2 ans à peu près.
Ah, oh, super intéressant. Merci beaucoup d'être venu partager cette expérience que vous avez vécue avec nos auditeurs. Vraiment, je rappelle le titre du livre de Paul-Marcel Adam et de Sonia Sauvette, Un couple dans le van, 365 jours sur la route, publié aux éditions Château d'Ancre. On va suivre leur péripétie prochaine. Merci à tous les deux.
Merci.
Tout de suite après la pause, en entrevue sans filtre, je reçois le populaire comédien, auteur, scénariste Guillaume Lambert.